de faire une deuxième session, je ne sais pas, pour aller plus vite. Mais si vous avez tout suivi, je pense que vous avez une connaissance bien solide du livre de Samuel, 1 Samuel en tout cas. Et vous avez vu comme c'est riche. Hein, on est surpris. Moi-même, en relisant les deux derniers chapitres qui ne me disaient pas grand-chose, a priori, surtout le dernier, je me suis aperçue qu'en fait, il y a des tas de choses qui m'ont fait du bien en préparant. Parce que quand on prépare pour les autres, c'est biblique, hein, on reçoit beaucoup soi-même. Ça nous aide à remettre en question tout un tas de choses, à remettre les choses en face de Dieu. C'est très chouette. C'est aussi un des plaisirs des études bibliques. C'est déjà pour soi-même. On reçoit beaucoup. Alors, on va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Vous vous souvenez que David avait été renvoyé par les Philistins parce qu'il disait, bon, ça va, hein, gardez pas ce gars-là chez nous parce que pendant la guerre, il va forcément se retourner contre nous ou il va mal se comporter. Bref, ils l'ont renvoyé. Il n'a pas pu faire la guerre avec les Philistins, heureusement, parce que les Philistins avaient déclaré la guerre à Israël, son propre peuple. Donc vous imaginez, ça a été hélas le cas de beaucoup d'Alsaciens d'ailleurs à la dernière guerre, d'être obligés de se battre contre les Français. Et c'est épouvantable. Je sais qu'un oncle d'André s'est tiré une balle dans le bras pour ne pas le faire. Je veux dire, les gens avaient conscience d'appartenir à un peuple et justement, ils ne voulaient pas se battre contre leur peuple. Donc David était en cette situation. S'il restait avec les Philistins, il allait se battre contre son peuple. Grâce à Dieu, Dieu l'a sorti de là, parce que c'était lui qui s'était mis dans le pétrin, évidemment. Et Dieu l'a sorti de là. Et vous avez remarqué que son ami, le roi, le petit roi, un des rois philistins, lui dit « Allez, rentre vite chez toi, rentre vite. » Il met une insistance folle à rentrer de bon matin, etc., pour retourner dans sa petite ville de Tziklag. L'insistance était justifiée parce qu'en arrivant, il s'aperçoit que la ville où il habitait, où ils avaient laissé les femmes, les enfants, évidemment, le troupeau, etc., tout avait été razzié par les Amalécites et la ville avait été incendiée. Donc, quand vous sortez d'une bataille, bien fatigué, enfin, même si la bataille n'a pas eu lieu, mais ils ont été là à faire du camping avec l'armée, plus 3 jours de route, et arriver pensant se reposer, manger, boire et dormir correctement, la ville est incendiée, il n'y a plus rien. Et surtout pas les familles, et pas non plus à manger. Donc, vous vous souvenez que ça a été un choc, que les hommes ont d'abord pleuré, jusqu'à ce qu'ils aient plus de larmes, il y a de quoi. Découragés, fatigués, et certains ont même pensé se débarrasser de David en le lapidant, parce qu'après tout, c'était de sa faute. Comme on avait dit la dernière fois, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Quelque part, c'était un peu de sa faute, mais c'est aussi de la faute de ceux qui l'avaient suivi. Mais c'était une grande détresse pour David, et là, on avait remarqué que David va retrouver son identité. Face à la difficulté, au lieu de se laisser couler et de se dire « Bon, bah, allez, vous pouvez me lapider, les gars, moi, j'en peux plus », il va avoir le bon réflexe, enfin le bon réflexe, consulter Dieu. Et ça faisait longtemps qu'il ne l'avait visiblement pas fait. Pour se joindre aux Philistins, évidemment, il n'avait pas consulté Dieu, parce que sinon, il sait très bien ce que Dieu lui aurait répondu. Vous savez, parfois, on est comme ça. Hein. On ne demande pas l'avis de Dieu, on ne demande pas l'avis d'un autre chrétien, parce qu'on sait qu'il va dire non. Donc, il faut mieux rien demander et le faire. Non, il ne faut pas mieux, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à faire quand on sait que la réponse ne va pas nous plaire. On est tous un peu comme ça, c'est une réaction humaine. Voilà, on est humain, hélas. Et donc, il n'avait rien demandé, mais là, cette fois-ci, il va se remettre en face de Dieu. Il va chercher Dieu, il va convoquer le prêtre qui était auprès de lui. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est bizarre qu'avant d'aller chez les Philistins, il n'ait pas consulté le prêtre, puisque le prêtre était dans sa troupe, ils habitaient dans les mêmes lieux, etc. Mais bon, là, cette fois-ci, il s'est bien trouvé à Abiathar. Il dit, allez, consulte l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? Et après consultation, l'Éternel dit, tu rattraperas la troupe, donc les Amalécites, et tu reprendras tes biens. Une belle promesse. Mais comme beaucoup de promesses, c'est pas la poudre de perlimpinpin. Ça s'est pas fait tout seul. Et c'est souvent ça qu'on n'aime pas dans la Bible. C'est que les promesses sont là, regardez Canaan. Allez, prenez le pays où coule le lait et le miel. Ah oui, Jéricho, non, toutes les batailles qu'il y a eu pour prendre possession du pays. Puis ils n'ont pas tout pris encore. Dieu nous fait des promesses, mais ce n'est pas la poudre de perlimpinpin. Ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a pas un truc magique qui fait que ce que Dieu m'a promis, boum, ça va me tomber comme ça. Il y a souvent, alors pas toujours, mais il y a très souvent une collaboration de notre part. Et ça, c'est la partie moins agréable. Parce qu'il faut qu'on s'y mette, il faut retrousser ses manches, etc. Ne serait-ce que pour la prière d'ailleurs. Mais bien souvent, Dieu nous demande de faire certaines choses, mais ça, on en reparlera. Donc, il repart avec ses 600 hommes, vous vous souvenez, et il va poursuivre les Amalécites. Mais où ? Il ne sait pas trop, mais en gros, il a une petite idée, certainement. Et ils arrivent à une petite rivière qui s'appelle le Bessor. Et là, un tiers de sa troupe, c'est quand même beaucoup, hein, s'arrête. On est trop fatigué. Alors, la Bible ne dit pas. Enfin, elle suggère qu'ils étaient trop fatigués pour passer le Bessor. Voilà. Il y avait certainement la fatigue morale, physique, peut-être spirituelle aussi. Est-ce que Dieu nous abandonne ? Vous savez, quand on perd toute sa famille d'un seul coup, déjà, on parlait tout à l'heure des gens qui perdent un membre de leur famille. C'est épouvantable. Mais quand vous perdez femme, enfant, et vous savez qu'ils vont devenir esclaves, parce que c'était des commerçants d'esclaves, les Amalécites. Ah, vous imaginez un peu le choc. Donc je pense qu'il y en a qui n'ont pas tenu le choc aussi, psychologiquement, affectivement, enfin, et spirituellement. Est-ce que Dieu est encore avec nous ? Est-ce que Dieu est encore avec ce gars David, là ? Ou est-ce que depuis qu'il est allé chez les Philistins, il a tout perdu ? On pouvait se poser la question. Et il y en a 200 qui vont s'arrêter. On en reparlera tout à l'heure de ces 200-là. Et puis, bénédiction, il rencontre en chemin un Égyptien, un esclave égyptien malade, qui avait été abandonné par ses maîtres. Parce que, bon, un Égyptien malade, c'est comme un chien malade ou un cheval malade, on ne s'en encombre pas. Hein. Un esclave, on ne s'en encombre pas. Façon de vivre. Et il lui pose des questions, il lui donne à boire et à manger. Et j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez. Ils avaient une bonne maîtrise d'eux parce que. Quand il a dit « Oui, j'étais avec les Amalécites qui ont brûlé la ville de Tsiklag », ils auraient pu se venger sur lui. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont donné à boire, à manger. Ils lui ont dit « Mais alors, où ils sont partis maintenant ?» Et il leur a indiqué où. Il a dit « À condition que vous me gardiez la vie sauve, je vais vous montrer le chemin. » Il lui garde la vie sauve et les voilà partis. Et ils arrivent donc devant le camp, on va dire, des Amalécites. Et là, on remarque la grande sagesse de David, il n'attaque pas tout de suite. Ils vont d'abord se reposer. Bon, je pense qu'il y avait une petite intention derrière aussi. Il a vu que les Amalécites étaient en train de faire la fête. Et vous savez, nos fêtes européennes sont un pâle reflet des fêtes de cette époque-là. Entre l'alcool et tout le reste, les fêtes de ces peuples-là étaient absolument dingues. Et un théologien disait que les concerts de hard rock sont vraiment pas un amusement d'enfant par rapport à ce que vivaient ces gens-là à cette époque-là. Donc, la conclusion était simple, ils ne vont pas être dans un bel état demain matin. Eh oui, après une fête comme ça, ils ne sont pas frais. Et l'attaque, c'était juste au lever du soleil en général, ou même un petit peu avant, quand ils étaient bien nazes. Et là, ils ont attaqué. Là, ils ont attaqué. David va se battre donc à l'aube, tout depuis l'aube jusqu'au soir. Waouh, quelle promesse ! Tu les rattraperas et tu récupéreras tout. Il va se battre 12 heures. Voilà, ça, j'aime pas ça, moi. Je sais pas si vous êtes comme moi ou vous êtes des meilleurs chrétiens, certainement. Mais moi, rien que l'idée, dire « Le Seigneur m'a promis et je vais devoir me battre comme un dingue pendant 12 heures, sous le soleil. » Ah, ah. Non, ça vous... Ouais, moi, ça me choque. Mais bon, c'est comme ça. Il y a eu la victoire, mais il a fallu se battre. Il a fallu se battre. La victoire était assurée, mais il fallait se battre. Ça, c'est le côté un peu plus dur. Hein ? Dieu donne la victoire, mais il a fallu faire plusieurs choses pour avoir cette victoire. D'abord, écouter Dieu. Ensuite, lui obéir. Oh, ça, c'est un gros mot, hein ? Surtout dans notre société française, obéir. Il a fallu y aller. C'était pas triste, il y avait quand même 2 jours de marche, je crois. Et il a fallu souffrir de l'absence d'un tiers des hommes. Alors ça vous rappelle l'histoire de Gédéon, hein, où Dieu avait diminué son armée jusqu'à ce qu'elle soit ridicule. Et là, il lui a accordé la victoire avec un petit nombre. Souffrir l'absence d'un tiers des gens, bah, c'était pas évident. Quand on le dit comme ça, ouais, bon, il lui en restait 400. Ouais, seulement, on s'aperçoit après qu'il y a 400 jeunes hommes amalécites qui ont pris la fuite. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. S'il y en a 400 qui ont fui, puis ils se sont battus toute la journée. Donc, il y en avait certainement un grand nombre. 200 qui ont pris la fuite. 400 qui ont pris la fuite, et là, il lui en manque 200. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas évident pour un leader de perdre les gens sur qui il compte. Et j'admire énormément la réaction de David, on va en parler tout à l'heure. Et ça doit être notre réaction à tous dans ces cas-là. En plus, il fallait passer la rivière, faire confiance à un étranger, en plus un esclave, attendre le bon moment pour attaquer. Patience, ils avaient hâte de récupérer. Ils auraient pu être un petit peu fous et dire « Allez, on leur saute dessus », alors qu'ils n'étaient pas encore ivres. Donc il a fallu attendre, trouver le bon moment pour attaquer et se battre pendant une bonne douzaine d'heures. Et c'était ça, la victoire. Je ne sais pas si ça vous fait envie, mais... Ouh ! C'est hélas pareil dans notre vie chrétienne. Et qui pense encore aujourd'hui que la vie chrétienne est faite pour des gens faibles ? Vous savez, parfois, les non-chrétiens nous disent ça. « Ouh, la foi, c'est fait pour les gens fragiles !» C'est une... En anglais, on dit souvent « c'est une béquille ». C'est une béquille pour les handicapés. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Qui a dit ça ? Ils n'ont jamais lu la Bible. Et ils n'ont jamais lu la vie de l'apôtre Paul, ni la vie des missionnaires. Pour dire ça, je pense que les chrétiens qui vivent des choses comme ça, eh ben, ils sont dans leur faiblesse. Ils sont extrêmement forts. Parce que pour tenir ça, misère. Lisez les biographies de certains missionnaires, ou même de chrétiens, tout simple, qui ont vécu des choses incroyables. Alors, c'est une vie d'aventure, d'un autre sens. Les ados, vous voulez de l'aventure, bah, soyez chrétiens, puis allez-y à fond. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Et vous n'aurez pas besoin de tout un tas de jeux vidéo, vous allez le vivre en vrai, les batailles. Et collaborer avec Dieu dans un monde hostile, ça devient passionnant. Et c'est vrai que c'est passionnant. Ça fait peur par moments, ça décourage par moments. Par moments, on pleure, par moments, on rit, parce que Dieu a de l'humour en plus. Ça, je vous garantis que Dieu a de l'humour. Pourquoi il aurait créé les singes et les girafes s'il n'avait pas d'humour ? Il a de l'humour. Et certains d'entre nous aussi, que je nommerai pas. Alors lisez les biographies un petit peu, lisez la vie des missionnaires, lisez la vie de certains hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je pense à cette femme qui est partie toute seule en Chine. Quelqu'un va peut-être se rappeler du nom. Gladys, voilà. C'est fou ce qu'elle a vécu. Passionnant. Une vie où on ne s'ennuie pas. Elle n'avait franchement pas besoin de jeux de vidéo. Elle le vivait au quotidien. Elle a été sous les balles des fusils. Elle a vécu toutes sortes de difficultés pour sauver des enfants. Enfin, le film est magnifique, je vous le conseille. Allez voir les Schmitt, ils connaissent tous les titres et tout. Voilà. Donc les Amalécites, on a dit, ils étaient plus nombreux. Pour l'hostilité, c'était de l'hostilité. Et le texte va insister après cette bataille sur le fait qu'ils ont tout récupéré, exactement comme la promesse de Dieu était. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, le chemin pour y aller est peut-être quelquefois un petit peu difficile, souvent même, mais la promesse, elle tient. Et il a dit, suis-les et tu récupéreras tout. Et ils ont tout récupéré. Alors vous allez me dire, ouais, mais à quel prix ? Oui, ils ont dû suer sang et eau, hein. J'imagine se battre, c'est une zone un peu désertique, je crois, hein, Colette, je pense que tu peux confirmer. La zone de combat, c'était au sud de Tsiklag, c'est assez désertique, je pense, il devait faire très chaud. Donc ça a dû être pénible hein, comme troupeau, comme bataille. Et rien ne manque. Alors c'est marrant parce que vous remarquerez que le texte insiste, comme je vous le dis souvent, c'est un indice. Trois fois, ils insistent sur le fait que rien n'a manqué. Et trois fois, il reprit tout. 3 et 3, c'est clair là. Quand le texte insiste comme ça, il se répète. C'est pas un hasard dans la Bible. Il n'y a pas tellement de hasard dans la Bible. Hein. Les mots sont en général pesés. Et quand il dit il n'a rien manqué, ils ont repris tout 3 fois, c'est clair, ils n'ont rien perdu. Rien perdu. Et parfois, on pense que quand le diable nous a attaqués, enfin, moi je suis un petit peu comme ça aussi, oh, mais on va perdre quelque chose. Eh bien non, avec Dieu, non. Quand Dieu nous conduit, on reprend, on récupère tout. Et on ne perd rien. Je dirais même que parfois, on récupère plus. Alors David revient, il revient avec des troupeaux. Alors ils ont ramené le frigo qu'on leur avait volé. À l'époque, c'était les troupeaux. La nourriture était sur pattes. hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, en plus avec la chaleur, vous imaginez. Donc, ils ramènent les troupeaux de petits et de gros bétail. Bah oui, ça, c'était une richesse incroyable. Dans un pays où il n'y avait pas grand-chose, hein, attention, hein, c'est une autre vie, hein, la vie un peu des nomades aussi. Donc, ils ramènent tout ça. La promesse de Dieu s'est réalisée avec la collaboration de tous. Alors, je précise qu'il y a certaines promesses, c'est vrai, où on ne peut rien faire. Dieu peut vous promettre des choses dans des domaines où vous ne pouvez rien y faire. Mais rien du tout. Ça arrive. Dans ces cas-là, c'est pas peine de... C'est bien ça. Vous remarquez, c'est bien ça. Les promesses où on ne peut rien faire, c'est plus reposant. On prie. On prie, on prie et on prie encore. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de promesses où il y a besoin d'une collaboration. Et il a fallu collaborer. Alors, quand il arrive, on va le lire parce que ça, c'est assez amusant de la part des gens qui parlaient de le lapider, surtout. David arriva auprès des 200 hommes, donc il revient, un petit peu avant. David ramena tout. David prit tout, le menu bétail et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à leur tête disaient « C'est le butin de David !» Oh, c'était content. Là, David, maintenant, hein, il est dans la victoire. C'est le butin de David, on est dans la joie, on est dans la reconnaissance. On ne parle plus de le lapider. Parce que quand tout va mal, on a envie de lapider les leaders. On a envie de lapider les gens qui nous entourent. Et c'est vrai aussi pour les parents. Quand ça va mal avec les parents, vivement qu'on s'en aille, qu'on soit majeur. Bon, on est humain, hein, vous savez, vous êtes comme tout le monde. Et quand ça va bien, et quand les parents vont dans notre sens, ça arrive quand même de temps en temps, eh bien là, on n'a plus envie de les lapider, mais ouais, c'est super, j'ai la meilleure famille du monde. Bah oui, c'est humain, vous voyez, ça n'a pas changé. Toujours la même chose. David, donc David, lui, il ne va pas accepter cette phrase-là par contre. C'est le bulletin de David. Vous allez voir, David ne va pas accepter cette phrase, il parle de ce que le Seigneur m'a donné. Ah, il est humble et il est lucide. Et attention, dans les moments où justement tout le monde flatte, tout le monde fait des compliments, etc., il ne faut jamais oublier. Quand vous allez réussir votre bac avec mention très bien, n'oubliez pas. Et dites, c'est le butin que le Seigneur m'a donné. Alors je dis, oh, mais j'ai travaillé, j'ai révisé nuit et jour, etc. Oui, c'est sûr, vous avez collaboré. Mais il y a des gens qui bossent et puis qui ratent quand même ou qui n'ont pas grand-chose. Donc, c'est le butin que le Seigneur m'a donné. N'oubliez pas de dire ça comme David. C'est le butin que le Seigneur m'a donné. Même si vous avez beaucoup travaillé. Moi, je vois parfois des gens qui n'ont pas la foi et qui bossent sincèrement et qui n'y arrivent pas. Et ça, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. J'ai eu de mes élèves comme ça, j'avais vraiment compassion. Je les voyais qui ramaient. Et quand ils étaient croyants, c'était bien, je pouvais leur dire, mais prie, prie. Pour ceux qui n'étaient pas croyants, je ne pouvais rien dire. Mais ça faisait mal au cœur. Et donc, quand vous avez bien travaillé, que le Seigneur vous donne une mention très bien, ou un 20 sur 20, parce qu'en dessous, c'est pas... Hein. Eh bien, dites, c'est le butin du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a aidé. Soyez reconnaissants. Déjà pour les facultés intellectuelles, la persévérance dans le travail, c'est aussi une grâce de Dieu. Alors, verset 21, ça se corse. David arriva auprès des 200 hommes qui, trop fatigués pour le suivre, deuxième fois, avaient été laissés au Bessor, donc petite rivière, j'imagine. Ils sortirent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Il est gentil. Tous les hommes mauvais, les hommes sans morale, oula, parmi ceux qui étaient allés avec David, dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien ne le sera donné du butin que nous avons repris. Sinon, à chacun sa femme et ses fils, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné, car il nous a gardés, il nous a livré la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire ? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour-là et dans la suite. Et on a fait de cela une prescription, une règle en Israël jusqu'à ce jour. Ah ! Ah ah ! Nos actions, quelquefois, hein, vont se répercuter, vont faire jurisprudence. Alors, là, je réfléchis. J'imagine David épuisé après la bataille. qui revient en marchant tout doucement, puisque je pense qu'il marchait derrière les troupeaux et tout ça. Bien épuisé, ils ont suivi sans eux, certainement un petit peu blessé. Et puis quand il arrive à la rencontre de ces braves gens, ces 200 hommes, qui se sont tranquillos, reposés auprès de la rivière, je le trouve formidable. Il les salue et leur demande comment ils vont. Ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Il demande comment ils vont parce qu'il les a quittés découragés, fatigués, épuisés moralement, physiquement, spirituellement, affectivement, tout quoi. Il leur demande comment ils vont. Alors, c'est un souci parce que ces gens-là, on peut dire qu'ils ont déserté, quelque part. Ils ont mis un poids plus grand sur les 400 autres. C'est-à-dire que déjà, l'armée amalécite était plus nombreuse qu'eux. Mais en plus, avec 200 en moins chez eux, un tiers en moins, le poids s'est reporté sur les 400. Donc je comprends que les 400, ils étaient un petit peu fâchés parce qu'ils ont dû porter la part de ceux qui ne sont pas venus. Aïe, ce qui m'étonne chez David, c'est qu'il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de reproche. Chez lui, comment est-ce que ça va? Par contre, ce n'est pas le cas des hommes mauvais et sans morale, dit la Bible, qui eux sont dans les reproches, la punition, la vengeance et dans le rejet. Qui s'en aille, on n'a pas besoin d'eux. Ils nous lâchent au moment de la bataille. Alors on les comprend, parce que ces hommes-là, comme je dis, ils étaient épuisés, ils avaient combattu en étant moins nombreux, ils avaient porté plus que la normale. Ils avaient connu les coups, la chaleur, la peur. Alors on peut les comprendre, Ils retrouvent les autres frais comme une rose au bord de leur rivière. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est Dieu qui les avait envoyés. Donc ils avaient obéi à l'envoi de Dieu. Et Dieu n'avait pas précisé le nombre, comme avec Gédéon. Ils avaient accompli la volonté de Dieu. Ils avaient été guidés totalement miraculeusement. Ils avaient gagné sur un plus grand nombre qu'eux. Ils avaient absolument tout récupéré. Dieu leur avait donné tout le butin, il leur avait donné la force et la victoire. Dieu leur avait littéralement livré les Amalécites entre leurs mains, parce que je pense qu'ils étaient ivres morts et ça a dû aider. Donc, ils n'avaient pas vraiment de raison pour attaquer ceux qui étaient restés. C'est Dieu qui avait combattu pour eux, beaucoup. Alors bien sûr, ils avaient participé, ils avaient collaboré, mais ça aurait pu se passer beaucoup plus mal, vu qu'ils étaient moins nombreux. Alors, je dirais que quand on est conscient que nos succès, ou ce qu'on fait, c'est dû au Seigneur et pas à notre intelligence, pas à notre force, pas à notre sagesse, alors on est capable d'avoir compassion des gens qui sont peut-être moins motivés, qui sont peut-être moins courageux, qui sont peut-être moins résistants ou moins compétents. Et on est capable de leur faire grâce et de ne pas leur faire de reproches. Et comme je pense que souvent, et c'est le problème de tous les leaders, alors, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le monde ou dans la société ou dans l'Église, c'est toujours difficile pour un leader, quel qu'il soit, de se trouver privé d'une partie des gens qui l'aident. Quand c'est un tiers, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on trouve parfois chez les leaders, que ce soit dans le monde, je pense aux maires par exemple en ce moment, on n'arrive plus à trouver de maires pour les villages ou les petites villes parce que la charge est trop lourde. Et puis, le maire, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le bouc émissaire. Quand il y a un orage, c'est la faute du maire. Quand il y a un trou dans un trottoir, c'est la faute du maire, etc. Bon, j'étais 25 ans adjoint au maire, je sais ce que c'est. Donc, on ne trouve plus. Et il y a une amertume. Pourquoi on ne trouve plus? Parce qu'il y a une amertume chez ces gens qui, au moment où ils pourraient compter sur quelqu'un, ça ne marche pas. Les gens se retirent. Et dans le ministère, dans l'Église, c'est un petit peu aussi pareil. Parfois, on est obligé de faire des choses sans l'appui des gens sur lesquels on comptait. Et on découvre, malheureusement, dans bien des cas, on a beaucoup de collègues pasteurs qui sont dans cette amertume. Et qui, du coup, nourrissent cette amertume qui est humainement justifiée. Au moment où je comptais sur eux, ils m'ont lâché. Au moment où je m'attendais à ce qu'ils fassent ceci, cela, ils sont partis pour ceci, pour leur confort. Ils sont allés auprès de leur petite rivière se reposer pendant que moi, j'avais le double de charge. Et à mon avis, c'est un faux raisonnement. Et je crois que le Seigneur, depuis pas mal d'années, nous a aidés dans ce domaine, avec un petit nombre ou avec un grand nombre. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Et c'est toi qui nous aideras à le faire. Et puis voilà. C'est le Seigneur qui appelle. Et à partir du moment où on est sûr de son appel, on n'a pas besoin d'attaquer les autres. Ils viennent pas aider? Et alors? Le Seigneur m'a demandé de le faire, je le ferai. Et lui va me donner la force, il va me donner le courage. Il va peut-être un peu suer sang et eau, on va peut-être prendre un petit peu de nion au passage. Mais l'essentiel, c'est d'obéir à Dieu. Et de ne pas attaquer, reprocher, etc. ou accuser les gens qui lâchent. Ils peuvent lâcher pour certaines raisons que Dieu connaît, c'est Dieu qui jugera. Mais je pense qu'il faut rester, et je pense par exemple au moniteur d'école du dimanche. Parfois c'est difficile. Oh mince, un tel, il n'est pas venu, donc j'ai double charge. Ben oui, mais jusqu'à présent, je sais que ça se passe bien et qu'il y a de la compréhension et il y a de l'amour qui fait que, bon, on va pas reprocher à la monitrice qui a sauté un dimanche parce qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que, d'accord, ça augmente la charge sur nos épaules. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous l'a demandé? Si c'est Dieu qui nous l'a demandé, il se débrouillera. Il nous aidera. Il nous donnera la force. Et c'est pas la peine de faire des reproches. Donc, c'est important parce que j'ai vu beaucoup trop de gens dans l'amertume, des responsables de ministère, que ce soit école du dimanche, louange, jeunes ou autres. Parfois, la charge peut sembler trop lourde. Ouais, mais si un tel avait aidé, si Dieu t'a appelé, tu fais ton boulot. Tu le fais avec l'aide du Seigneur et c'est sa victoire et c'est sa responsabilité et c'est son appel et ça sera son succès. Et je crois qu'il faut bien établir ça en son cœur. Ça peut s'appliquer dans les familles, ça peut s'appliquer au travail. Hein, vous savez, la collègue de travail qui vous lâche le jour où il y a un gros contrat à préparer ou un truc comme ça. Ça arrive. Eh ben, restons dans l'attitude de grâce de David. Bon, on peut dire au passage, ça aurait été sympa que tu sois là. Mais n'allons pas dans les reproches, dans les accusations, parce que si Dieu nous a appelés à faire ce travail, il nous donnera la force. Et c'est lui qui va s'en occuper. Je sais que vous avez déjà certains, je vois dans vos yeux que certains ont déjà fait cette expérience. Donc, moi, j'étais très frappée par la grâce de David. Parce que moi, j'essaie de m'imaginer, vous savez, quand je lis un texte, j'essaie de m'imaginer le spectacle. Le gars rempli de poussière, de sang, qui a mal aux pieds, je ne sais pas s'ils avaient des cloques, mais ils devaient avoir les pieds bien abîmés après la bataille, etc. Et ils arrivent, et voilà les 200 qui sont frais comme une rose et qui les accueillent. Et David a la bonté de dire « Comment est-ce que vous allez ?» Je vous ai quitté découragé, je vous ai quitté complètement lessivé, là, complètement au bout du rouleau. Aujourd'hui, comment vous allez? Moi, je me serais attendue que ce soit eux qui disent « Alors, comment s'est passée la bataille? Oh là là, on va panser vos plaies, on va vite vous donner une douche. » C'est lui qui dit « Comment vous allez ?» Et ce n'est pas étonnant que David soit un type biblique de Jésus. Hein, c'est formidable. Donc voilà, quand on est conscient même de nos succès, quand on est conscient que c'est le Seigneur qui les a donnés et pas notre intelligence, notre force ou notre sagesse ou notre nombre, alors on est capable d'avoir compassion. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors ça se gâte parce que les autres, ils ne sont pas du tout de cet avis. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien, on leur rend leurs femmes quand même, hein, c'est gentil, leurs enfants, on ne saurait pas quoi en faire, et puis on les renvoie. Bon, alors... C'est intéressant que la Bible qualifie ces gens hein, mauvais et sans morale. C'est méchant, ça. Eh oui, parce que ce n'est pas du tout l'esprit de Dieu et ce n'est pas du tout l'esprit de Jésus. Et vous savez, dans la Bible, il n'y a pas 36 solutions. Ou on a l'esprit de Jésus, ou on a l'esprit du monde. On ne peut pas servir Dieu et le monde, ça c'est clair. Alors l'attitude de David, bien sûr, c'est semblable à celle de Jésus. Et alors j'ai réfléchi, mais alors je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que ça aurait été un peu long. Ça m'a fait penser à la parabole où, vous savez, cet homme qui, sur la place du village, engage des ouvriers pour la vigne. Alors les premiers, ils ont travaillé sous le soleil toute la journée, donc ils s'attendent à avoir un plus gros salaire. Sauf que quand il les a embauchés, il leur a donné le même salaire, il leur a promis le même salaire à chacun. Et celui qui vient travailler pour la dernière heure, il gagne autant que celui qui travaillait depuis le matin. Injustice. Alors là, tous les syndicats deviennent fous. Tout le monde est dans la rue. Ah, voilà, les gilets jaunes, c'est rien. parce que c'est d'une injustice flagrante. Mais ce que Dieu voulait dire par là, c'est sûr, c'est pas que c'est comme ça qu'il faut procéder. Ce qu'il voulait dire, le message derrière, c'est ce que Dieu promet, il le donne. Et il ne va pas comptabiliser nos heures. Il ne va pas comptabiliser le nombre, il va regarder le cœur. Et ça, c'est important. Et David était capable de faire ça. Donc Jésus ne nous mesure pas à la quantité de choses qu'on fait pour lui. Ce n'est pas une raison pour en faire le moins possible. Hein. Mais il connaît notre état aujourd'hui. Il sait d'ailleurs, et je pense qu'au XXIe siècle, plus que jamais, vous en êtes témoin, on fait face à toutes sortes d'attaques. Fatigue, déception, découragement. Nous aussi, on peut être très épuisé par moments, démoralisé, en burn-out. Et parfois, on n'a pas envie de se battre. Ça, c'est moi, ça, j'aime pas trop me battre. On a envie de rester près des bagages, près de la rivière. Vous imaginez, dans un pays chaud, près d'une rivière, les doigts de pied en éventail. On n'a pas envie de traverser cette rivière. Ils se sont arrêtés avant de traverser, je vous fais remarquer. Hein, parce que traverser, ça supposait encore du boulot. Mais Jésus, comme David, ne fait pas de reproches. Comme ces 200 hommes, ils ont une qualité, ces 200 hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais malgré leur repos, ils sont venus à la rencontre de David. Bon, ils avaient certainement hâte de retrouver leur famille, mais ils n'étaient pas sûrs encore. Hein. Mais ils sont venus à la rencontre de David. Ils n'avaient pas quitté. Ils n'avaient pas quitté, ils s'étaient simplement reposés. David revient de la guerre avec du butin. Et je crois que quelque part, Jésus revient de la guerre avec du butin. Un butin qu'on n'a pas mérité. Mais il va le partager avec nous. Vous croyez qu'on a mérité le pardon de nos fautes? La libération de notre culpabilité? On n'a rien mérité du tout. Il a tout gagné à la croix, après une longue et douloureuse bataille, sous le soleil aussi. Et il revient nous trouver près de notre petit cours d'eau, là. Mais nous, il nous reste quand même quelque chose à faire. Il faut aller à sa rencontre. Et ces 200 hommes, ils n'avaient pas complètement abandonné David. Ils s'étaient reposés, mais ils ont eu le courage de se lever pour aller à sa rencontre. Ils savaient peut-être qu'ils risquaient des reproches. Hein. Ils ne sont pas quand même idiots. Mais vous savez, comme David, Jésus a récupéré nos familles et nos biens. Il a souffert, on peut dire en vrai, il a sué sang et eau, c'est le cas de dire, pour qu'on reçoive sa grâce. Et là, c'est une bataille que nous, on n'a pas à mener. C'est seulement son sang qui pouvait nous racheter. Et c'est ça l'évangile. Et c'est ça la puissance de l'évangile aujourd'hui qu'on oublie malheureusement en tant que chrétien. La base de notre force, la base de notre vie spirituelle, c'est que Jésus a tout pris sur lui et qu'il nous l'offre avec grâce. Il veut nous débarrasser de notre culpabilité, comme c'est Charles qui parlait tout à l'heure, de les gens essaient de vous rendre coupable, mais il n'y a pas que les gens qui vous envoient du courrier. Même nous-mêmes, on se culpabilise. On n'a pas besoin des autres parfois. Mais Dieu nous libère de ça, Jésus nous libère de ça. Les hommes qui sont restés en arrière, ils ne sont pas restés abattus à penser à leur malheur. Ils sont allés accueillir David. Et je pense que nous aussi, il faut aller accueillir cette grâce. Si on veut être capable aussi de donner cette grâce aux autres, qui ne le méritent pas non plus, je ne dis pas que ces 200 hommes, ils méritaient la grâce de David. Justement, une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, jamais, jamais mérité. Et on oublie ça aussi dans nos milieux chrétiens. On revient un petit peu à la théologie catholique qui dit « vos œuvres, il faut faire pour gagner l'amour de Dieu, son pardon, etc. » Non, la grâce de Jésus à la croix, c'est une grâce vraiment, vraiment imméritée. Vous savez, moi je suis toujours frappée parce que notre âme humaine se révolte. Je lisais encore récemment l'histoire d'un couple qui pardonne aux meurtriers de leur fils. Aïe, aïe. Extrêmement difficile. Mais si ces gens sont capables de le faire, c'est parce qu'ils ont connu la grâce de Dieu envers eux. Et parfois, nous, on ne pardonne pas à un collègue qui nous a fait une vacherie, ou on ne pardonne pas à un voisin qui, on connaît ça, un voisin qui a été désagréable ou qui a fait quelque chose qui ne nous plaisait pas. Ma voisine a cette habitude de dire, moi, je ne pardonne pas. Mais si nous, on est capable de pardonner, c'est parce qu'on a reçu une grâce complètement pas méritée. Il ne faut jamais oublier ça. Et je crois que David, dans ce texte, il est l'exemple même de celui qui donne une grâce non méritée. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on appelle souvent David l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas parce qu'il était parfait, oh là là. C'est pas parce qu'il a tout fait bien. Allez se réfugier chez les Philistins, franchement. Non, c'est parce qu'il avait ce cœur à l'image de Dieu, capable de donner une grâce pas méritée. Et ça, c'est formidable. Et nous, notre chair humaine, elle refuse. Hein. Mais il n'a rien mérité, il n'a rien fait pour ça. Et on est comme ces hommes, souvent, misère, ils sont qualifiés de mauvais et sans morale, ça fait mal. Mais on est souvent un peu comme eux, de dire, ah non, mais attends, il ne l'a pas mérité, hein, ou bien il ne l'a pas volé. Ouais, ce n'est pas du tout l'esprit de Dieu. Dieu est seul juge. Après, lui, il gère, mais nous, on doit être restés dans la grâce. Toutefois, je répète, ces hommes n'ont pas quitté. Ils n'arrivaient pas à suivre, mais ils sont restés près du matériel. Ils étaient toujours les hommes de David, même s'ils passaient par un temps de découragement. Et si vous passez par un temps où vous avez envie de vous asseoir auprès de la rivière et puis de dire, moi, j'ai plus envie de me battre. Il y a des moments, hein, burn-out, dépression, fatigue, maladie, etc. Faut pas oublier que se reposer, ça ne veut pas dire quitter. Parce que le diable va essayer de vous le dire. Ah, tu vois, tu étais chrétien et puis tu laisses tomber. Gna, gna, gna. Non. Se reposer, ça ne veut pas dire quitter. Et puis, il y a un moment où il faut se relever pour aller accueillir le roi. Ça, c'est ce que j'apprécie chez ces gens, c'est qu'ils se sont relevés, ils sont allés l'accueillir. Alors, notre guerre spirituelle à nous, elle est bien plus complexe, parce qu'on ne se bat pas contre des gens en chair et en os. La Bible dit, hein, on ne se bat pas contre la chair et le sang. Et vous remarquerez que toutes les armes d'Éphésiens 6 sont protectrices. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Il n'y a que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est une arme offensive. Mais elle n'est pas faite pour taper les autres à coups de versets bibliques. Il faut faire attention à ça. Mais elle est faite quand même pour trancher. Trancher face aux compromis que la société nous impose. Et là, ces derniers temps, j'y pense beaucoup, avec les scandales en cours, etc. C'est pas simple, hein ? Ne pas faire de compromis sur la vérité, sur les valeurs. Ça, c'est difficile. S'imprégner suffisamment de l'esprit de Jésus au travers de sa parole, ça doit rester notre priorité. Tout en reconnaissant ses valeurs et en les adoptant. Ce n'est pas facile. Et là, le combat est autrement plus difficile. Parce que c'est une des choses, je crois, les plus difficiles pour les chrétiens de bonne volonté. Comment est-ce que je vais vraiment garder les bonnes valeurs de la parole de Dieu dans une société qui relativise tout ? Comment est-ce que je vais respecter la parole de Dieu dans ma vie quotidienne ? Ce n'est pas facile. Par exemple, si vous travaillez avec un patron qui a tendance à magouiller, comment vous allez faire ? Ça demande de la prière. Ça demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je ne peux pas m'associer. Je me souviens quand le maire est venu me chercher pour être adjointe, je lui ai dit, attendez, il faut que je vous dise une chose. Je n'accepterai pas les magouilles et les mensonges. Donc, il faut mieux que vous le sachiez maintenant. Il vaut mieux choisir quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et elle a dit, mais c'est justement pour ça que je vous choisis. Et je pense qu'il faut savoir de temps en temps. Bien sûr, je me sentais très honorée qu'elle me prenne comme adjointe, mais pas à n'importe quel prix. S'il fallait faire des compromis, c'était non. Et quand le deuxième maire a appris la suite, je lui ai redit la même chose. Je ne vous soutiendrai pas dans les magouilles et les compromis et les mensonges. Bon, une fois qu'ils sont au courant, c'est beaucoup plus facile. Et quelquefois, ça vaut le coup de le dire au moment de l'embauche, parce que ça vous protège de bien des difficultés. Notre société évolue dans ses valeurs. Et puis, nos cultures aussi. Hein. Je ne veux pas critiquer la culture italienne, mais pour bien la connaître, parce que j'ai fait des études d'italien avant de faire celle d'anglais, il y a un mot en italien qui se dit furbo. Et être furbo, c'est une qualité. Et je me suis disputée avec les Italiens quand j'étais là-bas. J'avais 17 ans et j'étais très carrée. Bien plus que maintenant, réjouissez-vous. Et je ne comprenais pas comment ça pouvait être une qualité. Je ne sais pas comment ils s'en sont sortis, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire, oui, ça veut bien, il veut dire fourbe, mais pour eux, c'est une qualité pour se débrouiller dans la vie. Bon, la société évolue dans ses valeurs. Hein, je vous ai déjà dit, hein, des trucs qui me choquent, hein, une femme enceinte qui, enceinte de, on va dire, de 2 mois et demi, 3 mois, qui a un accident, elle perd le bébé. Oh, c'est une catastrophe, elle a perdu son enfant et tout le monde est malheureux. Et puis, quand c'est pour un avortement, c'est un amas de cellules, on jette. Bon, valeur à géométrie variable. Donc la société évolue dans ses valeurs, mais le Seigneur, lui, n'évolue pas. Donc il faut absolument qu'on revienne à la parole de Dieu. Pas comme une arme pour assommer les gens, Et ça, c'est pas facile. Mais comme des valeurs qui ont un sens. Les valeurs qu'on enseigne dans la parole de Dieu, qu'on enseigne avec la parole de Dieu, c'est parce qu'elles ont un sens. Vous savez, quand on est petit, je ne sais pas comment vous étiez, vous les jeunes, mais quand vous étiez plus petit, moi j'acceptais qu'on me donne une interdiction à condition qu'on me dise pourquoi. Et quand j'entends des parents, j'espère que personne ne le fait ici, vous allez me taper à la sortie, mais quand j'entends des parents qui disent « c'est comme ça parce que c'est comme ça », tout en moi se contracte, je ne supporte pas. Je pense que vous êtes pareil les jeunes là. Hein, c'est comme ça, quand c'est comme ça, ça ne vous plaît pas ça. C'est quelque chose de difficile parce que c'est pas vrai. Il y a une raison. Et avec la parole de Dieu, il y a un sens. Il y a un sens à ce qu'on fait. Et si on a certaines valeurs dans les églises qui s'inspirent de la parole de Dieu, c'est parce que ça a un sens. C'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est pas pour le plaisir de faire un rite ou de faire quelque chose de religieux. Non, pas du tout. Les valeurs ont un sens. Et c'est le sens que Dieu veut donner à nos vies. Est-ce qu'on veut une vie de n'importe quoi, sans aucun sens, dans le chaos? Je suis sûre que vous n'avez pas envie de ça. Mais le problème, c'est quand on veut une vie avec un sens, il y a certaines contraintes. Parce que c'est les contraintes qui nous permettent aussi de bien vivre. Imaginez une grande ville avec tous les feux éteints, tous les feux rouges, j'entends, rouge, vert. Vous imaginez le chaos à l'heure de pointe. Oh, je voudrais voir ça. À l'heure de pointe, plus de feux rouges. C'est la grande liberté. Il n'y a plus de feux rouges, yeah! Écoutez, Paris sans feux rouges, à l'heure de pointe. Je ne sais pas à quelle heure vous rentrez chez vous. Ben voilà. Et la vie humaine sans valeur, sans les valeurs bibliques. Waouh ! Liberté des mœurs. Jusqu'au jour où. Et ça, c'est important de prendre conscience que justement, cette liberté des mœurs qui est actuellement dans notre société, c'est elle qui est à l'origine de tous les problèmes. C'est elle qui est à l'origine de tous les problèmes. Et ce n'est pas ça qui va nous faire envie. Donc, attention. Les contraintes de la parole de Dieu sont là pour nous donner un sens, comme le code de la route, comme les feux rouges, hélas. Moi, j'aime pas être arrêté un feu rouge, franchement. Qu'est-ce que ça m'énerve? J'aime mieux les ronds-points, franchement. Mais j'aimerais pas qu'on éteigne tous les feux. Franchement, j'aimerais pas. Alors, prions pour nos combats. Prions pour nos combats. Pour nos amalécites, parce que c'est ça, nos amalécites. Qu'est-ce qu'ils font, nos amalécites? Ils volent nos familles, ils volent nos destinées. Et ils volent nos valeurs. Que Dieu nous accorde vraiment la bonté et la bienveillance qui a été manifestée à David, par David par rapport à ses semblables, mais aussi la rigueur contre les idées modernes qui, exactement comme les Amalécites, détruisent notre société, détruisent nos familles, détruisent nos villes. Tous les professeurs savent très bien qu'un enfant qui vient de vivre une catastrophe familiale, ses études vont être affectées. Mais à la radio, on va vous dire, et dans les médias, le divorce n'affecte absolument pas les enfants. Allez-y, c'est votre vie. Oui, ça peut être vrai pour des tas d'autres choses. Donc, prions. Prions pour garder les valeurs du royaume de Dieu et de la bonne manière. Et ce n'est pas facile. C'est même angoissant parfois. Alors, par contre, il y a quelque chose encore chez David qui est incroyable. À son arrivée à Tsiklag, donc il est rentré, David envoie une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, avec ces mots « C'est un cadeau pour vous, pris sur le butin des ennemis du Seigneur. » Et alors il nous donne la liste, ceux de Bethel, Ramoth du Negev, Yatir, Aroer, Sifmon, et à ceux d'Hébron. Il y a une petite mention spéciale, pourquoi à votre avis, ceux qui ont lu la suite, c'est à Hébron qui va être couronné en premier. À ceux d'Hébron et à tous les lieux où David et ses hommes avaient circulé, il va envoyer des cadeaux. Il a reçu une grâce et il va envoyer des cadeaux. Il a reçu une victoire, il va envoyer des cadeaux. Il va partager. Alors, il a quand même été chouette parce que certains de ses cadeaux n'étaient vraiment pas mérités non plus. D'abord, il y avait des gens parmi les hommes de Juda qui l'avaient trahi. Ça ne l'a pas empêché quand même de donner des cadeaux. Et c'était un geste, ces cadeaux, pour dire, si jamais vous aviez des doutes parce que je suis allée chez les Philistins, je suis toujours des vôtres. L'oubliez pas quand je reviendrai. Peut-être quand même cette intention. Mais c'est un témoignage de reconnaissance pour l'hospitalité qu'il avait connue chez eux. Et il y a vu quand même de l'hospitalité chez ces peuplades. Pour d'autres, ce sont de simples cadeaux qui préparent son retour. avec le message, bien sûr, je suis des vôtres, hein, c'est ça que ça voulait dire. Et puis pour d'autres, c'était le retour de ce que les Amalécites leur avaient volé. Donc en ayant la victoire, il a en même temps béni les autres qui avaient aussi été volés par les Amalécites. Avec cette bataille et cette grande victoire, David a repris son identité. Ah, on en avait parlé il y a 2 semaines, son appel, sa relation de dépendance envers Dieu. Et sa relation avec sa tribu, Judas, ses amis et son peuple. Alors, j'ai réfléchi, l'incendie de Tsiklag et peut-être aussi le rejet qu'il a subi de la part des princes philistins, ça a été un électrochoc pour lui. Un rappel, une suggestion. Il va falloir que tu retournes au pays. C'est juste le bon moment. Et c'est là qu'on voit que Dieu travaille de tous les côtés pour le remettre en piste, si on peut dire. Dieu travaille de tous les côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les Philistins le rejettent alors qu'ils font la guerre à Israël. Les Amalécites brûlent son lieu de refuge. Et pendant ce temps-là, Saül, lui, il est préoccupé par la guerre. Donc il peut rentrer. Il peut rentrer. Le moment est venu. Alors parfois il y a dans nos vies, j'ai réfléchi un peu à ça, mais je pense que vous allez pouvoir mettre des événements dessus, vous personnellement, qui peuvent nous sembler des catastrophes, quand même. Le rejet, la ville brûlée, tout ça. Ça peut sembler des catastrophes et en fait ce sont des panneaux indicateurs pour nous faire revenir là où Dieu veut qu'on aille, suivant ce que c'est. Renouer avec sa tribu, se préparer à son règne, c'était ça que Dieu voulait pour lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors évidemment, honnêtement, quand il était devant Tsiklag brûlé, avec les femmes et les enfants partis, visiblement pour l'esclavage, il ne pensait pas que c'était une bénédiction. Hein. Et souvent, on a des événements dans notre vie, on se dit, ben, c'est vraiment pas une bénédiction. Hein. Mais on ne se rend pas compte qu'à terme, si on regarde en arrière, ces événements-là nous ont ramenés plus près du Seigneur, nous ont amenés vers d'autres bénédictions. Alors je cherchais des exemples dans toutes mes histoires, mais bon, il était un peu tard hier soir, donc... Vous imaginez à la place. Mais combien de catastrophes dans notre vie? Il y a des catastrophes diaboliques parfois, mais il y a aussi des catastrophes qui nous ramènent vers Dieu, qui nous ramènent à notre destinée. Et parce qu'avec Dieu, tout a un sens, encore une fois. C'est ça qui est bien. Il y a un sens. Alors, on ne le saisit pas toujours tout de suite. Je suis sûre que David, il n'a pas saisi tout de suite. Hein. Mais petit à petit, il a dû comprendre. La preuve, c'est qu'on a le récit. Le but, c'était de le guider à nouveau vers le plan de Dieu, vers sa famille, vers ses amis, vers son pays, vers sa tribu de Judas. Par contre, là, pour Saül, en parallèle, Saül, aïe, 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 ça se gade. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël durent fuir pour échapper aux Philistins. Alors, le texte est très clair, hein, c'est un entonnoir. D'abord, les hommes d'Israël durent fuir pour échapper aux Philistins. Donc ça commence mal la guerre, il fuit. Des victimes tombent au mont Gilboa. Il y a de plus en plus de morts dans l'armée d'Israël. Les Philistins serrent de près Saül et ses fils. Donc il était un petit groupe avec ses fils et ses gardes du corps. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Ça se rapproche. Il est horrible ce texte. Le poids du combat se porta alors sur Saül. Les archers le trouvèrent. Il fut saisi devant eux d'un tremblement violent. Il savait que c'était la fin. C'est pour ça qu'il tremblait. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de crainte que ces incirconcis ne viennent me transpercer. » Ils étaient particulièrement cruels ou me brutalisaient. Bon, vous avez vu un peu comment faisait Daesh. Celui qui portait ses armes ne voulut pas. Il avait très peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Voilà, les hommes, les morts, Saül et ses fils, Saül. Suicide en plus. Quelle fin déplorable. Je pense quand même, après ce que la nécromancienne lui avait dit, vous vous souvenez, il aurait pu supplier Dieu. Il aurait pu supplier Dieu. Il aurait pu faire demi-tour. Mais ce qui est terrible chez Saül, il a tellement l'habitude que ce soit la faute des autres, qu'il entraîne derrière lui, et c'est ça qui est embêtant aussi, son peuple, sa famille, ses gens, et le pire de tout, c'est la suite. Ça me fait mal. Ainsi, ils moururent ensemble ce jour-là, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses hommes. Les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée, de l'autre côté du Jourdain, virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, donc ça valait plus le coup de se battre. Ils abandonnèrent les villes et s'enfuirent. et les Philistins vinrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les cadavres. Ils découvrirent Saül et ses trois fils qui étaient tombés au mont Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül. J'imagine que ça vous rappelle quelque chose. C'était les Philistins, Goliath, mais à l'envers. Puis ils firent annoncer la nouvelle avec, dans tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils clouèrent son cadavre sur la muraille. Horrible, horrible, horrible. Les hommes d'Israël s'enfuient parce qu'ils ont vite compris que la guerre allait mal tourner. Certains sont tués. Les Philistins veulent absolument Saül et ses fils. Et Jonathan, vous vous souvenez de Jonathan? Mais qu'est-ce qu'il faisait là, Jonathan? C'était plus sa place. Pourquoi est-ce qu'il va mourir ici, Jonathan? À côté de son père qui a passé son temps à désobéir à Dieu et à reporter la faute sur les autres. Alors c'est un exemple d'une belle loyauté familiale, je dois le reconnaître. Jonathan était un homme bon, mais peut-être trop. Il a fait passer la loyauté familiale avant Dieu. Il a renoncé à tout ce que David lui avait promis. Vous vous souvenez? Quand je serai roi, tu seras mon second. On va régner ensemble, avec le Seigneur, pour le bien du peuple. C'était des soldats hors pair, tous les deux. Pour finir bêtement aux mains des Philistins. Oh. Il connaissait Dieu, lui, il savait, il avait une relation personnelle avec Dieu. Mais sa loyauté humaine est passée avant sa foi. Attention, attention à nos loyautés humaines. Je ne dis pas qu'il faut être déloyal, il faut toujours expliquer nos actions et qu'il y ait un sens devant Dieu. Mais Jésus a dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, etc., il ne peut pas me suivre. Et quand Jésus lui-même, sa mère et ses frères et sœurs sont venus le chercher, mais il a perdu la tête à enseigner partout dans les villes de Juda. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont allés le chercher. Jésus n'a même pas daigné y aller. Il était très occupé. Il avait la foule autour de lui. Il était en train de guérir les malades. Il était en train d'annoncer le message du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Si ce n'est ceux qui font ma volonté. Ah, il était passé à une dimension au-dessus. Par contre, il a toujours pris soin de sa mère et c'est là je suis contre les gens et je sais qu'il y a un pasteur particulièrement qui a écrit un livre là-dessus, que je suis totalement en désaccord, que la famille, hein, Jésus, la preuve, il a fait comprendre à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi au moment aux noces de Cana? Non, 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 non. À la croix, Jésus s'est préoccupé de sa mère. Il était en train de porter nos culpabilités, il était en train de porter le péché de l'humanité et il a pensé à Marie en disant à Jean, voilà, prends-la chez toi. À partir de ce jour, Jean prend la prise chez elle, etc., chez lui. Et il a dit de prendre soin de sa mère, parce qu'il savait qu'elle allait être seule. Je ne sais pas, peut-être les frères et sœurs étaient éparpillés, je ne sais pas. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter sa famille et de ne pas en prendre soin. D'ailleurs, la Bible est claire, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire que les infidèles. Je n'ai pas la référence, mais vous la chercherez. Mais, donc non, le but. Mais quand il y a un problème de loyauté, c'est Dieu qui passe en premier. Et j'ai connu beaucoup de jeunes chrétiens, c'était assez courant hein, finalement dans les années 70 au GBU, on avait beaucoup d'étudiants qui ont été rejetés par leur famille quand ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Alors ils n'allaient plus en boîte, ils ne faisaient plus les idiots de leur vie et ça aurait dû faire plaisir aux parents, mais au lieu de ça, les parents s'en moquaient. Et bon, si tu veux ton Dieu, va voir ailleurs. Quoi. Mais cela a affermi leur foi. Et si aujourd'hui, on a des médecins chrétiens, des gens qui ont fait des études, qui sont allés loin dans leurs études et qui sont profondément chrétiens. C'est parce que nous, on les a connus quand ils étaient 19, 20, 21 ans. Ils ont accepté la douleur d'être rejetés par leur famille pour suivre Jésus. Ça s'est arrangé après. Mais sur le coup, ça fait quand même très mal. Et vous savez, il y a, je crois que c'est la WEC, l'organisation missionnaire, qui a comme motto « Aucun sacrifice n'est trop grand pour celui qui a donné sa vie pour moi. » C'est vrai, c'est vrai. Et Jonathan n'a pas fait ce choix. Est-ce que c'est sa loyauté? Est-ce que c'est... On ne sait pas, mais il n'a pas fait ce choix. Et du coup, il a perdu la vie alors que Dieu lui avait donné une destinée fantastique. Premier ministre d'Israël, avec son meilleur ami, il se préparait des beaux jours. Deuxième point, les Israélites quittent leur ville, vous avez remarqué? Quand ils voient que c'est perdu, ils quittent leur ville. Et la Bible dit clairement, dès qu'ils ont quitté leur ville, les Philistins vinrent s'y installer. Nous aussi, on a ce problème. Quand on quitte notre ville, les Philistins vont s'y installer. Tout terrain qu'on abandonne, il est repris par l'ennemi. Il n'y a pas de zone neutre. Ah, quand on est jeune, on aimerait bien qu'il y ait des zones neutres. Où on n'est ni engagé avec le Seigneur, ni hostile au Seigneur. Le rêve. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même pas dans les bandes dessinées. Tout terrain qu'on abandonne, il va être pris par l'ennemi. Il n'y a pas de zone neutre. Si je laisse mes enfants sans leur enseigner la parole de Dieu, je sais ce qui va leur arriver. Moi, je me souviens de mon médecin qui s'étonnait. Elle avait adopté 6 enfants, femme célibataire, médecin plus, une force de la nature. Et elle me disait, oh là là, j'ai du souci, un tel qui risque de se droguer, un tel qui a volé, un tel qui ceci. Et je lui disais, mais franchement, elle était croyante. Je disais, mais si vous ne leur enseignez pas la parole de Dieu, ils vont forcément suivre naturellement une autre personne, qui est Satan, bien sûr, et d'autres valeurs. La nature horreur du vide. Je quitte le territoire, l'ennemi va le prendre. Et si on n'enseigne pas ces choses à nos enfants, bien sûr, c'est le monde qui va leur enseigner. Si je n'annonce pas le conseil de Dieu et sa parole, c'est le monde qui va passer. Si je laisse mes valeurs chrétiennes pour être dans le vent, je pense que c'est peut-être un vieux mot maintenant, hein, ça date, mais ça va avec la personne. Et je date aussi. Ou pour être à la mode, je ne sais pas ce que vous dites, pour être in, c'est peut-être mieux. Non, c'est vieux aussi ça, c'est dépassé. C'est quoi alors maintenant? Has been, d'accord. Okay. Bon, alors si je laisse mes valeurs pour être à la mode, tant pis, ou pour être politiquement correct, l'ennemi va prendre le terrain. Mais ça, c'est sûr. N'allez pas croire que parce que, bon, voilà, on laisse faire, et bien, à partir du moment où vous laissez faire, l'ennemi va prendre le terrain. Et ça vous semble un petit peu, je pense, quand on est jeune, c'est quelque chose qui semble un petit peu, elle exagère un peu, la Michelle. Non. L'expérience l'a prouvé. La nature a horreur du vide. De toute façon, moi, je vois bien chez moi. Chaque fois que je range une étagère et qu'elle est tellement bien rangée qu'il y a un grand vide comme ça, il faut qu'André mette n'importe quoi dedans. Mais n'importe quoi ! Il va me fourrer là un vieux carton vide ou un vieux bidon d'huile à voiture. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est l'illustration même de ce qui se passe quand vous faites du vide pour le Seigneur dans votre vie et le diable, il va, ah bon, tiens. Il va essayer de filer ses affaires. Ah là là, c'est terrible d'être marié. Hein. Ah là là, c'est pour ça qu'on a besoin de la maison d'Élie et tout ça. Il ne faut jamais ranger. C'est aussi une possibilité, c'est ce que j'ai fait ces derniers mois d'ailleurs. Voilà. Donc attention de ne pas abandonner la place à l'ennemi. Chaque fois qu'on lui laisse, il va la prendre. Alors c'est casse-pied parce que transmettre à votre génération, là les jeunes, transmettre les valeurs qui ont fait leur preuve dans notre vie, avec nos cheveux blancs et tout, toi, ça peut être un peu casse-pied. Justement, André me disait ça ce matin. Il me dit, mais c'est casse-pied de transmettre. Parce que parfois, les jeunes, ils n'en veulent pas. Je dis, mais ça ne fait rien, on transmet quand même. Un jour ou l'autre, au moment où ils en auront besoin, ils sauront que ce sont des bonnes valeurs. Donc il faut y aller. Parents, relevez vos manches courageusement. Transmettez les valeurs de la parole de Dieu, même si ce n'est pas politiquement correct, même si ce n'est pas dans l'air du temps, même si c'est contraire même à la loi maintenant. Vous voyez de quoi je parle. Transmettez. La parole de Dieu aura toujours le dessus. Comme André avait un collègue pendant un temps, ah, tu n'en as jamais parlé de ça, et avait un collègue qui était très imaginatif apparemment, mais qui était souvent à côté de la plaque au niveau technique. Ils avaient pourtant fait la même école, ça n'aurait pas dû. C'était l'exception qui confirme la règle, ce gars-là. Et donc souvent, il engageait des procédures dans l'usine et qui n'allaient pas du tout, qui ne correspondaient pas à ce que la matière réclamait, à ce qu'il fallait faire, etc. Et André était là le soir, il me disait, oh là là, il va faire ses essais là, mais il va se planter. Je dis, bah, tu ne lui as pas dit ? Oh, ça ne sert à rien. C'est la réalité qui parlera. Et 2-3 jours après, il revenait et dit « Ah ben il a vu, tout a cassé, tout a explosé » ou je ne sais quoi. C'était à l'époque sur les panneaux des satellites. Hein. Voilà. Donc ils doivent avoir une température très forte d'un côté et très froide de l'autre. Et donc la réalité parlera. Donc la réalité parlera. Donc écoutez les valeurs que les parents vous transmettent. La réalité parlera. Donc ils vont couper la tête de Saül. Vengeance par rapport à Goliath, évidemment. Ils s'en souviennent. Hein. Ils ont la mémoire longue. Hein. L'ennemi sait aussi quand on lui a fait du tort. C'est pour ça qu'il faut rester dans la prière. Il sait quand on lui a fait du tort. Et ils vont transmettre la bonne nouvelle dans tout le pays. Et alors, ce qui me fait mal, c'est qu'ils vont mettre son armure dans la maison des idoles d'Astarté et sa tête va échouer. Alors ça, c'est 1 Chronique 10, dit que sa tête va être mise dans le temple de Dagon. Dagon, c'était un dieu moitié poisson, moitié humain. Alors, pourquoi ça me fait mal ? Pas seulement parce que, bon, ça fait mal quand même qu'on nous coupe la tête, c'est pas ça. C'est, selon les croyances antiques, c'était leur déesse qui avait remporté la victoire, non pas sur Israël, mais sur le Dieu d'Israël. C'est ce qui fait que le destin tragique d'un roi désobéissant, c'est aussi une atteinte à son Dieu. Et quand on désobéit, on ne porte pas seulement atteinte à soi-même, ou à sa famille, ou à son église, ça, on porte atteinte à Dieu, à la réputation de Dieu. Et franchement, moi, je suis reconnaissante à mes parents. Ah, alors là, j'espère que vos parents vont bien écouter, hein. Je suis reconnaissante à mes parents de ne pas m'avoir dit « Qu'est-ce que le pasteur dirait si tu faisais ça ?» ou bien « Qu'est-ce que diraient les gens de l'église ?» Ils ne m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours dit « Est-ce que c'est à la gloire de Dieu ce que tu fais ? Est-ce que c'est ce que Jésus ferait à ta place ? Est-ce que c'est un bon témoignage de ta foi dans ton lycée ? C'est ce que tu as lu dans la Bible ? Est-ce que tu sais ce que Jésus a dit à ce sujet ? Tu ne voudrais pas que les incroyants se moquent de ton Dieu. Je crois que les chrétiens sont assez traités d'hypocrites, ça suffit. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Je crois qu'il faut faire attention quand on désobéit. Parce qu'on porte pas seulement atteinte à notre vie, à notre famille, mais on porte atteinte à la gloire de Dieu. Et ça devrait nous importer. Et si on a la crainte de Dieu, moi je sais que ça me touche parce que j'ai été élevée comme ça. Et je suis reconnaissante que mes parents m'aient dit ça. Ils ne m'ont jamais dit qu'est-ce que vont dire les voisins, qu'est-ce que va dire le pasteur ou les anciens de l'église. Et pourtant, c'est une grosse église qui bavardait beaucoup, 600 personnes. C'était qu'est-ce que Dieu pense ? Qu'est-ce qu'il en est de la gloire de Dieu dans ta vie ? Vous savez, les scandales de l'église catholique en ce moment, moi, ça me donne envie de pleurer. Je ne me réjouis pas du tout. Bien sûr, on est protestant, on n'est pas concerné. Mais la gloire de Dieu est moquée. Elle est piétinée par tous ces Saül qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et qui n'ont pas protégé les malheureux, et ils n'ont eu aucun souci de justice. C'est terrible l'image qui est donnée de Dieu. Et vous voulez après dire aux gens, Jésus a porté vos péchés sur la croix, ils vont vous regarder. Rêvez là, avec ce qui se passe, vous voulez que j'écoute ces gens ? Vous voulez que je regarde la croix de Jésus ? Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Et ça me fait mal. Et la fin de Saül, c'est pareil, elle nous fait mal. Parce que comme pour ces hommes d'église, et ce n'est pas pour alimenter la presse à scandale, mais c'est parce que ça porte atteinte au message de l'Évangile. Ce message qui fait notre vie, ce message qui nous a apporté le pardon, ce message qui nous permet de prier Jésus tous les matins quand on a des soucis, ou comme Ruth, quand elle va aller devant son jury. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est ce message qui est complètement piétiné. Ce qui fait qu'on va priver le monde d'un message essentiel. Chaque fois qu'on désobéit, chaque fois qu'on fait une ânerie, chaque fois qu'on laisse notre chair, notre être humain naturel faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et je réponds et je me venge, etc., chaque fois c'est le message de Jésus qui est piétiné. Et vous savez, parfois je pense, je regarde les petits poissons sur les voitures, et puis bon, parfois, vous avez dû remarquer, à part Claire, que je ne suis pas parfaite. Et parfois, je vais passer à l'orange un peu, ou je vais aller un peu trop vite, ou je vais aller pas assez vite au goût des autres. Et je me dis, heureusement, j'ai pas de poisson sur ma voiture. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez, le monde peut faire semblant d'apprécier notre liberté de mœurs. Oh, c'est merveilleux, les protestants, ils disent rien pour le divorce. Ou bien, je sais pas, pour d'autres choses. Oui, c'est ce qui se dit. Hein. Ils savent pas comment on gère, mais bon. Voilà. On peut même, en tant que chrétien, parfois se montrer très libre dans ses mœurs. Divorce, liberté sexuelle, etc. Et ça, au moins, les gens, ils nous apprécient, non pas du tout. On leur refuse des repères clairs qu'on est les seuls à pouvoir leur donner. On a besoin de repères. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les suit toujours. On n'est pas des saints, au sens catholique du terme. Mais on a besoin de repères. Et en faisant n'importe quoi de notre vie, en libérant nos mœurs, en adoptant des valeurs qui les ont menés, eux, à la ruine, Et c'est ça qui est quand même curieux. On sait que ce sont des mauvaises valeurs qui les ont menés à la ruine. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Je crois qu'on rejette le Seigneur qui les a inspirés. Et on donne un très mauvais témoignage de qui est Dieu. Dieu a établi des repères pour notre sécurité. On les rejette pour faire bien, pour être dans l'air du temps. On ne rend pas service à notre société. Je crois qu'on ne rend pas service à notre société. Saül aurait pu dire, je suis le roi, alors c'est ma vie, ma décision de croire que tout est de la faute des autres. Et alors, Saül, tu as entraîné avec toi tes fils, et surtout Jonathan. Tu as entraîné tes hommes. Des villages entiers sont passés à l'ennemi, et la gloire de Dieu a été piétinée. La gloire de Dieu a été rendue à des idoles, grâce à ça. Et Dieu est passé pour vaincu devant le peuple. Et c'est ça qui est important. Et quand on a envie de désobéir à Dieu, je pense qu'il faut penser à ça. Oh, j'ai envie de faire ce que je veux. Et qu'est-ce que les gens vont penser de toi, Seigneur ?